Donc, bonjour à tous pour ce partage. Donc, je ne vais pas être très très long, ça ne va pas être une conférence qui va vous emporter trop longtemps. En fait, je saisis l'opportunité de pouvoir expliquer la thérapie archétypale à ceux qui l'ont demandé pour que vous ayez une explication qui soit claire sur l'intention de la thérapie archétypale, ce que c'est, et puis également des enseignements que nous avons mis en place. Pour cette année 2021 qui semble un petit peu particulière, délicate et puis probablement contrainte. Donc, il va falloir continuer nos adaptations pour pouvoir mettre en place l'information, la spiritualité, le développement personnel et puis qu'on puisse avancer. Surtout qu'en plus, comme vous le savez tous, c'est une année de transformation, de changement de conscience, et donc ce n'est pas le moment d'être sur la touche ou de se priver d'une transformation et d'une information. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'avant de commencer l'année 2021, c'était bien qu'on parle un petit peu de la thérapie archétypale. Donc c'est un concept analytique, la thérapie archétypale. Alors c'est un terme qui peut paraître sérieux, donc vous pouvez l'entendre comme une thérapie, tout simplement, une technique de thérapie, mais ça reste une technique avec des idées précises et avec une stratégie intellectuelle et thérapeutique. Donc du coup, on peut parler de concept. C'est donc un concept analytique qui identifie 22 problématiques humaines auxquelles sont rattachées 22 ressources humaines et 22 comportements positifs, 22 comportements négatifs, si vous préférez, dans un autre langage, sur une même expérience humaine. C'est-à-dire qu'on a toujours le choix dans notre humanité de vivre un côté ou l'autre d'une histoire. On peut la voir bien ou on peut la voir mal. On peut la vivre en souffrance et garder la souffrance, ou on peut la vivre comme une expérience qui amène à la richesse de l'expérience. Quand on dit qu'il y a toujours un bien pour un mal, eh ben encore faut-il valider le bien et pas rester dans le mal. Donc c'est ça la thérapie archétypale, ce concept qui identifie ces problématiques humaines et ces ressources humaines. Ce sont ces comportements humains, positifs et négatifs, sont nourris d'émotions, sont nourris d'actions, sont nourris de réflexions, sont nourris d'événements. Et à ce titre-là, c'est donc ce qu'on peut appeler des archétypes, c'est-à-dire des formes de pensée collectives, universelles, qui sont nourries par les expériences des êtres humains. Et ces expériences entraînent des émotions, des actions, des pensées, des histoires, des événements. Et donc, ce sont des formes de pensée, des énergies qui existent à part entière, qui existent au-delà de chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'on soit là ou pas, elles existent, ces entités. Ce sont des entités vivantes, hein. Et elles sont, et c'est un des principes de la thérapie archétypale, elles sont polarisées, c'est-à-dire que elles sont identifiées, je les ai identifiées, ces 22 problématiques et ces 22 ressources, je les ai identifiées dans une polarité. Donc, par exemple, l'amour, ça, c'est un archétype, mais il est polarisé, amour et haine. Et donc, on a 22 potentiels comme ça, 22 richesses à notre disposition qui ont besoin d'être activées, je pense, en ce moment, et d'autant plus que nous sommes dans ce changement de conscience de l'humanité, dans ce changement, dans cet éveil de conscience, et que logiquement, on va vers la lumière, enfin, même si ça n'apparaît pas clairement aujourd'hui, mais on est censé, en tout cas, c'est notre désir, notre espérance d'aller vers la lumière. Mais il semblerait que pour aller dans la lumière, il faille agir la lumière. Et donc, la thérapie archétypale est un moyen d'action. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ces formes de pensée collective, par exemple, vont se positionner comme dans ce qu'on vit actuellement, dans l'expérience d'aimer. Donc, l'expérience d'aimer, c'est un archétype qui s'appelle l'amour. Et vous avez l'expérience d'aimer qui s'oppose au manque d'amour, aux blessures de l'amour, aux maladresses de l'amour et malheureusement, mais réellement, aussi s'oppose la haine. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous voyez bien que la haine, elle est partout, hein, que l'absence d'amour est là, que les blessures de l'amour sont dénoncées. Donc on est vraiment dans l'expression de cet archétype de l'amour très clairement aujourd'hui, avec un amour qu'on recherche. un amour qu'on imagine, qu'on extrapole dans un amour inconditionnel, dans un amour universel, dans un amour fondamental, mais il reste que l'amour humain, qui est souvent, bien souvent sentimental, est un amour un petit peu réduit, insuffisant, et si on en fait un constat objectif, pas suffisamment dynamique dans notre monde aujourd'hui. Donc on pourrait dire que cette problématique du non-amour et cette ressource de l'amour, ils sont pas au top de leur capacité. Donc, premier archétype parmi les 22 qui pourrait être nettement mieux qu'il n'est. Deuxième exemple que je vous propose ce soir en fonction de l'actualité, c'est l'expérience de la liberté. Donc, l'archétype de la liberté et dont le contraire, c'est la dépendance. Donc, en fait, l'expérience de la liberté s'oppose aux contraintes, aux interdits, au contrôle, aux manipulations, tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, l'archétype de la liberté, aujourd'hui, dans un changement de conscience, ça devrait être à l'honneur, on devrait se sentir débridé, dégagé de contraintes, illimité dans nos pensées, libéré de conditionnements, de croyances et d'idéologies. Et en fait, eh ben, c'est totalement l'inverse, puisque on est dans une petite idéologie accaparante et manipulante qui nous empêche totalement de ressentir au quotidien la liberté de circuler, la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté de profiter de la vie, de jouir de la vie, et malheureusement avec les conséquences que ça implique, c'est-à-dire aussi l'absence de liberté de santé, puisque ça va avec la joie d'exister. Ça, c'est le deuxième archétype parmi les 22 que je vous propose ce soir. Le troisième, c'est l'expérience de la confiance qui s'oppose aux peurs de toutes sortes, comme celle, par exemple, qu'on a installée dans le monde d'aujourd'hui, qui est celle d'être malade ou de rendre malades les autres, ce qui est une aberration incroyable, parce que ça veut dire que l'histoire que nous vivons aujourd'hui, qu'elle soit vraie ou pas vraie, implique en tout cas avec certitude que nous avons un état d'esprit qui fait qu'on a peur d'être malade, on a peur de mourir, on a peur des autres parce qu'ils pourraient être contaminants, on a peur de contaminer parce qu'on ne sait jamais, et tout est fait dans le monde d'aujourd'hui et dans les institutions en place, à raison ou à tort, je ne suis pas là pour juger, je suis juste pour constater. En thérapeute, que l'archétype de la confiance est totalement absent. On ne peut pas accorder notre confiance à ce qu'on nous demande, c'est impossible, à moins d'être des moutons, et des moutons en plus stupides, ce que je pense pas que le mouton soit. Donc on ne peut pas imaginer dire, animons l'archétype de la confiance en faisant confiance à ce qui se passe, et aux médecins, à la science, à la politique, aux boursiers, etc. Impossible, si vous réfléchissez un tout petit peu. Donc, du coup, la peur est là sur tous les tableaux, avec des peurs existentielles qui sont animées, comme par exemple celle de vivre, parce qu'on nous empêche, et celle de mourir, qui est une absurdité incroyable dans le monde où nous sommes, parce que la peur de mourir est totalement conventionnelle. Elle est intellectuelle, elle est totalement limitée, elle est basée sur des croyances, alors que si on était dans l'ouverture d'esprit, on considérerait l'expérience de la mort comme l'expérience de la vie, et on en aurait beaucoup moins peur. Or là, aujourd'hui, vous voyez les EHPAD, vous voyez les personnes âgées, vous voyez les personnes seules, ils n'ont qu'une trouille, c'est de se retrouver suspecté d'avoir la maladie et d'être entraîné dans un hôpital et de mourir seul, abandonné, sans les rituels qui les rassurent et sans la présence affectueuse, on peut l'espérer, de la famille, qui aujourd'hui ne peut pas correspondre à ça. C'est pareil pour les mariages, c'est pareil pour les enterrements, enfin voilà. Donc cet archétype de la confiance, il est totalement aujourd'hui démantelé, il en est déstructuré et ça fait le troisième parmi les 22. J'en prends encore deux, l'expérience de la joie, dont le contraire, c'est la tristesse. Et donc, l'expérience de la joie s'oppose aujourd'hui à la tristesse, au chagrin, à la déception, à la mélancolie, à la nostalgie. Toutes ces réactions, tous les mots que je viens d'utiliser, sont susceptibles de devenir des pathologies de l'esprit, de l'inconfort, du mal-être. Donc, on voit bien que la joie n'est pas l'honneur et que quand on sait qu'être joyeux, ça permet d'avoir un système immunitaire beaucoup plus dynamique, la tristesse met en état de dépression cellulaire et peut provoquer des désordres de la santé. Donc voilà pour cet archétype qui lui aussi est totalement malmené et je crois que très peu de choses sont faites aujourd'hui selon les plans, je ne sais pas lesquels, divins, universels, humains, etc. En tout cas, pas grand-chose est fait pour qu'on soit dans la joie. On nous a lâchés pour les fêtes de Noël en famille, mais on ne nous permet pas de vivre les fêtes de passage de l'année. Et donc, bouffer, faire que manger et être joyeux parce qu'on a mangé, ça ne peut pas être une raison d'être très joyeux, quoi. Alors, finalement, quand vous regardez ce qui nous reste à faire, eh ben, c'est que ça, hein, consommer, acheter, dépenser, buvez, manger juste au moment où vous dites de le faire, et puis le reste du temps, c'est plus possible. Donc, cet archétype de la joie, eh ben, il est incontestablement réduit à peau de chagrin, là, vraiment limité dans son énergie. Enfin, la dernière que je prendrai, dernière exemple que je prendrai de ces archétypes qui sont malmenés, c'est l'expérience du bien-être, donc l'archétype de la santé, du bien-être physique ou psychique, qui s'oppose aujourd'hui, auquel s'opposent aujourd'hui toutes les maladies existantes, physiques et psychiques, et la peur de la maladie qui trône totalement sur l'existence dans le monde où nous sommes aujourd'hui en décembre 2020. Voilà, là, vous n'avez que quatre exemples d'archétypes parmi les 22 archétypes. Donc, quatre ressources parmi les 22 ressources que nous avons à notre disposition. Et malheureusement, vous voyez que nous avons quatre problématiques qui sont accentuées, empirées, entretenues et vécues et nourries par nous-mêmes, par nos émotions, nos actions, nos pensées, toutes les énergies qu'on peut déployer. Donc, pour résumer, on pourrait dire que donc, je ne vais pas vous faire la liste des 22 parce que franchement, ça serait démoralisant. Ce n'est pas le but. Mais il y a donc 22 ressources que l'humanité rencontre, 22 forces de vie, 22 ressources humaines que tout le monde, où qu'il soit et de toutes les couleurs que l'on soit sur cette planète, peuvent rencontrer. Et ces ressources sont à portée de nous dans un lieu très accessible qui est l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, il porte des clichés, des empreintes, des schémas, et il peut porter des choses très positives. Quand tout le monde est joyeux, on ne sait pas pourquoi, mais on est joyeux. Ou quand tout le monde est par exemple, effrayé, et que quoi qu'on fasse, qu'on soit isolé, tout seul ou en groupe, eh bien, on est influencé, contaminé, on pourrait dire, c'est un mot d'actualité, par l'inconscient collectif. Donc, ces 22 ressources humaines, et évidemment les 22 problématiques, se logent dans l'inconscient collectif. Donc, la thérapie archétypale, non seulement est un concept analytique qui identifie 22 problématiques humaines pour les soigner et 22 ressources humaines pour les réactiver, mais en plus situe ces énergies dans un plan de l'inconscient collectif qui peut être travaillé, ce qui voudrait dire que la thérapie archétypale peut donc soigner l'inconscient collectif. Pour moi, c'est une des magnifiques choses, des missions et des choses spirituelles de la thérapie archétypale émerveillante, c'est que on va soigner 10 personnes qui sont dans la même problématique, et bien en soignant les 10 personnes, on va soigner la même ressource. Et là, on ne parle plus des individus, mais de la ressource qui travaille. Donc, c'est ça, ce côté collectif fantastique qui donne un accès, du coup, au changement du monde, parce qu'on peut influencer fortement ce changement. Donc, le constat qu'on fait à partir de ça, de cette identification des problématiques, des ressources, du lieu où ça se trouve, c'est que si nous sommes conscients que ces ressources existent, il semble évident que nous évoluons en luttant contre les problématiques. Vous êtes conscient qu'il y a l'amour, mais vous subissez le non-amour. Vous êtes conscient qu'il y a le pouvoir, mais on est dans un contre-pouvoir ou une absence de pouvoir. Et on lutte là-dedans. On est dans des problématiques de reconnaissance. Et pourtant, on sait qu'il faut qu'on se reconnaisse comme des créatures de la création, comme des âmes, et qu'on reconnaisse les autres comme telles. Mais ce n'est pas facile dans le monde où nous sommes. Donc, ce constat nous amène à penser que clairement, nous sommes branchés sur les problématiques et non sur les ressources. Que ça veut dire que les terriens, les terriennes, à cause de l'inconscient collectif, sont connectés consciemment ou inconsciemment sur la problématique, c'est le moteur de la vie, et non pas sur la ressource, ce qui paraît, en tout cas à mes yeux aujourd'hui, absolument aberrant et totalement insupportable et illégitime par rapport à l'éveil de conscience qui se met en place et le changement de conscience d'humanité que nous mettons en place dans l'ère du Verseau, où justement on doit rendre le monde meilleur, le monde plus lumineux, le monde plus intelligent, le monde plus conscient. Si on pouvait se permettre, il y a des années, de ne pas être conscient de certaines choses, et de l'accepter avec tolérance. Aujourd'hui, on va vers un monde de conscientisation. On est appelé à reconnaître les choses telles qu'elles sont et à changer de dimension, c'est-à-dire à les voir dans une perception qui est plus large, plus profonde et plus avec une perspective qu'on la voyait auparavant. Ne serait-ce que, par exemple, la religion. On peut rester enfermé dans nos petites religions de nations et sans vouloir et créer du coup des désordres, ou on pourrait penser, c'est ce que je pense dans la thérapie archétypale, que toutes ces religions sont des choses intéressantes et sont des choses acceptables, que ce sont des comportements, des réactions, des élaborations, des idéologies qui sont basées sur le mental de certains humains, mais que l'idée de croire dans quelle que soit la religion que vous voulez, c'est d'être bien dans votre peau, c'est d'être bien dans ce monde, c'est d'arriver à aimer le monde et pas à y attribuer un mot, un nom, un possesseur, un seul créateur. Le créateur reste le même. Donc, je pense qu'il faut changer tout ça, c'est le moment ou jamais. La thérapie archétypale va dans le sens de l'aider. Donc l'inconscient collectif planétaire pourrait être donc branché sur ce pôle négatif au lieu d'être connecté sur le pôle positif des ressources humaines. Donc tout en restant très objectif et très lucide, on peut dire qu'on voit le verre en fait à moitié vide, alors qu'on pourrait, pour quelque chose de très rationnel, un verre et une quantité de boissons dans ce verre, on pourrait être très pragmatique, très rationnel et très lucide et le voir tel qu'il est à moitié plein, ce qui est une vision très objective. Mais nous, quand il y a un verre à moitié plein, on le voit à moitié vide et on souffre du vide qu'il manque et on le garde pour nous comme si on allait en manquer, donc on ne le partage pas. C'est aujourd'hui ce qu'il faut qu'on change. Un verre à moitié plein peut se partager et rien ne nous empêche de penser que s'il est à moitié plein, on va le remplir et en plus que vous allez y mettre ce que vous voulez. C'est ça notre vision positive qui semble manquer dans notre humanité aujourd'hui. Sans bouleverser nos habitudes de fonctionnement, c'est-à-dire sans dire aux gens, il faut croire autrement, il faut changer totalement de croyance, il faut vivre autrement. Non, ne changez rien à ce que vous vivez. Mais vous pouvez envisager de vivre ce que vous vivez en le percevant différemment et en le reliant à la bonne fréquence d'onde, tout simplement. Ce qui veut dire qu'il y a très peu d'efforts à faire. Il y a juste une vision positive à mettre en place et à travailler avec patience et avec éducation, une éducation généreuse, compassionnelle et valorisante, on peut travailler ce sentiment d'avoir le droit à ses ressources et pas de devoir vivre contre quelque chose ou dans la lutte contre quelque chose. Donc, ce fonctionnement est à mon avis, très facile à bouleverser et la thérapie archétypale ben, l'aide à le faire parce que tout en libérant les problématiques, elle aide à se relier aux ressources de manière consciente et active. Je vous explique comment. La thérapie archétypale, en fait, reconnaît les problématiques des personnes à travers l'histoire. Et l'histoire, c'est trois histoires. C'est à la fois l'histoire individuelle, ce qui vous est arrivé depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Facile à savoir. Et si on n'a pas d'informations, c'est déjà un indice. Si vous n'avez pas de parents, c'est très clair. On sait d'où vous venez, on sait que vous êtes abandonné, on sait ce que vous travaillez. Magnifique. Pas besoin d'aller compliquer la tête et de faire des tonnes d'exercices pour vous soigner. Vous serez ce qu'on appelle un abandonné. Vous avez un titre social, c'est un enfant de la DAS. Et ce que vous avez à soigner, c'est le sentiment d'abandon pour vous amener au sentiment d'appartenance. Parce que même abandonné, vous avez le droit de vous sentir bien en ce monde. Sinon, j'aurais envie de vous dire, qu'est-ce que vous faites là? Et donc, on reconnaît l'histoire individuelle. On reconnaît l'histoire familiale parce qu'on sait par expérience et par science humaine que les choses se répètent de génération en génération, de membre de la famille à un autre membre, et que autant les personnes décédées que les personnes vivantes reproduisent le même type de schéma. Donc, c'est intéressant de connaître l'histoire de la famille. Après, il y a une histoire plus délicate et plus subtile, qui, je pense, est une histoire identifiable aujourd'hui dans le changement de conscience. C'est une histoire transpersonnelle. Histoire transpersonnelle, ça veut dire d'imaginer l'hypothèse que vous avez pu avoir d'autres expériences de vie. Alors, que ce soit vous ou que ce soit votre famille, vous arrivez avec un bagage, avec un héritage, et cet héritage a été nourri par l'existence de plusieurs personnes. Mais c'est vous qui avez l'héritage, d'accord? Donc, cette existence soit tenue par des membres de votre famille, ce qui nous permet de rentrer dans le transgénérationnel, ou qu'on puisse imaginer que cette histoire a été mise en scène et vécue par vous dans d'autres temps, c'est exactement la même chose. On s'en fiche de croire ou pas à la réincarnation, on rentre dans une logique de vivant qui permet de comprendre que quand les choses se répètent et que ça ne nous convient pas, il faut trouver une solution pour les interrompre. Ça, c'est les trois histoires. Après, la thérapie archétypale va reconnaître le comportement des personnes, le comportement émotionnel, les vraies émotions, celles qu'on cache parfois, celles qu'on ment parfois, celles qu'on trompe. Donc, les émotions, le mental, bien compliqué, qui parfois fait tout un détour pour une chose très très simple, et le physique, le corps, qui, magnifique corps, vous dit la vérité sur ce que vous êtes, parce que franchement, c'est sans doute l'expression de la personne la plus sincère, puisqu'elle vous dit ce qui ne va pas. Donc, dans la thérapie archétypale, on n'entend que la maladie, la somatisation, les pathologies sont des messages du corps qui vous donne par amour l'indication que quelque chose ne fonctionne pas, ne va pas bien et qu'il faudrait donc le modifier. Si on entend la maladie comme ça, en se disant, bon, je vais me soigner concrètement avec des médecins, avec des médocs, avec un protocole, avec tout ça, je vais faire confiance parce que je sais que j'ai une maladie, un désordre qui vient d'une vie qui a été malheureuse. Je soigne ma vie malheureuse. Je passe par des démarches qui me permettront de la rendre moins malheureuse et en même temps, j'adhère à un protocole scientifique, médical, pragmatique, qui du coup, que je m'approprie, c'est moi qui me soigne avec l'aide des autres et c'est moi qui me soigne dans la maturité d'un monde qui est le mien et j'aboutis à une seule chose, la guérison. Et quand je suis guéri, je suis libre de ma maladie et non pas entretenu dans le risque d'être encore malade. La thérapie archétypale, outre l'histoire et le comportement, va rechercher les somatisations, donc les maux, les pathologies et les blocages. Elle repère dans ces histoires là où les problématiques qui semblent récurrentes, répétitives, dans votre vie, à vous, mais aussi dans les générations proches, et puis maintenant, on peut aller dans des générations bien plus lointaines pour repérer sur 10, 15 générations des comportements. Malheureusement, on va dire que c'est souvent des qualités, des défauts, des aventures humaines, des coups du sort, des morts, des maladies, des choses comme ça. C'est rare qu'on fasse un travail transgénérationnel qui va parler des qualités qui sont transmises, des difficultés qui sont transmises, et encore moins de l'archétype qui est vécu à travers la famille. Mais dans la thérapie archétypale, on va repérer à travers tout ça l'archétype que la famille semble porter et que vous, vous incarnez, parfois avec difficulté, parfois avec ignorance et parfois avec lucidité et avec conscience, ce qui vous permettra d'en faire ce que vous voulez. Si vous avez incarné dans votre vie, dans vos vies, dans votre sang, à travers des corps humains de familles multiples, vous avez incarné l'archétype de la tristesse, alors moi je vous dis vraiment en pleine conscience, je vous dis, vous êtes la personne qui peut incarner la joie. Est-ce que ça vous branche? Vous avez 10 dépressifs, vous avez un suicidé, vous avez un maniaco-dépressif, vous avez une nostalgique, une neurasthénique, et ce que vous voulez. Vous, si vous êtes là-dedans, dans ce panier de personnes, vous êtes sans doute celle qui peut transformer tout ce que les autres ont vécu. Choisissez, vous rajoutez une couche et vous refaites un coup de tristesse, d'une manière ou d'une autre, vous avez le choix. L'humanité est riche dans le carnaval, dans la comédia dell'arte et dans les masques, c'est un mot à la mode aujourd'hui. Mais nous pouvons choisir si ça nous plaît ou si ça ne nous plaît pas et démasquer le rôle réel que l'on joue et celui lumineux qu'on pourrait jouer. C'est l'une des stratégies et l'une des ambitions de la thérapie archétypale. Pour provoquer cette dynamique qu'on va essayer de mettre en place de passage entre la problématique qu'on aura repérée et la ressource que l'on sait qui va avec la problématique, donc l'exemple que je vous ai donné, 10 dépressifs dans la famille, la personne qui est devant vous est dépressive, tout le monde est dans le même bain, oui, mais on dit, OK, vous êtes dans ce bain-là, donc la problématique, elle s'appelle tristesse, c'est clair, et la ressource, elle s'appelle joie. D'accord? On a repéré ce qu'il nous faut pour décider. Si vous voulez, du coup, passer de la problématique de la tristesse à la ressource de la joie, la thérapie archétypale vous propose deux méthodes. La première, c'est de défaire par un travail énergétique la charge mémorielle et émotionnelle comprise et reconnue qui résulte de l'histoire. L'analyse permet de ressentir la charge. Tout ce qu'on vient de citer tout à l'heure, le comportement, les somatisations, l'histoire, etc., permet de trouver la charge. La personne la porte, la charge. Parfois, elle ne la sent pas. Nous, on va sentir, on est énergéticien, on va sentir que non seulement elle porte quelque chose qui n'est pas agréable, mais que ce quelque chose a un nom et que ce nom est une problématique. Et que derrière cette problématique, il y a une ressource qui n'est pas visible. Et on va la dévoiler. Et on va dire à la personne, vous voulez? Et là, elle nous dit oui. Alors on lui dit, OK, on y va. On passe par la première étape, défaire par un travail énergétique, la charge mémorielle et émotionnelle comprise, la mémoire cellulaire enregistrée au fur et à mesure des événements, conséquente de la problématique, peut se transformer. On le sait aujourd'hui, c'est une réalité humaine, scientifique. On sait qu'on peut travailler sur la mémoire cellulaire et qu'on peut la changer. Donc, la changer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut la déprogrammer. Pas besoin pour ça qu'on ait une pilule, une puce ou des manipulations génétiques. On peut transformer ça par le pouvoir de l'action et de la pensée positive. Et donc, on peut être accompagné pour ça. C'est le rôle de la thérapie archétypale. Donc, ça veut dire qu'on peut déprogrammer quelque chose, mais ça ne suffit pas. Déprogrammer, c'est bien, mais c'est intéressant si on déprogramme de mettre un programme à la place et donc de reprogrammer. Donc, dans l'une des démarches de la thérapie archétypale, l'une des méthodes, c'est déprogrammer la mémoire cellulaire qu'on ne veut pas, qui est associée à la charge mémorielle et émotionnelle de la problématique, et de programmer une dynamique positive de transformation. Donc, ça veut dire qu'on va rentrer dans un programme de déprogrammation, de reprogrammation, que nous appelons en thérapie archétypale l'intelligence cellulaire. Deux stratégies, déprogrammer, programmer, intelligence cellulaire. Le deuxième mode de méthode que nous avons, c'est d'orienter vers des techniques de libération comportementale. Il y en a plein. Dans la thérapie archétypale, on en a quelques-unes qui sont des archétypes et qui sont donc très identifiables, qui sont la compréhension, on l'appelle l'intelligence, et l'ignorance, son pendant. L'intelligence permet de comprendre les émotions, de comprendre le corps, de décoder, d'avoir l'agilité d'esprit, de se donner le droit à la compréhension des choses et aussi de transformer le programme cellulaire, c'est-à-dire l'intelligence cellulaire. On a la technique du lâcher-prise. Et dans le lâcher-prise, on entend en thérapie archétypale d'accepter les émotions, de les repérer, de les aimer avec compassion, les accueillir, les vivre, les légitimer et à un moment donné, avoir envie de s'en libérer. Et c'est là que va intervenir les différents travaux qui peuvent être un travail par la voix, par le son, par le sport, par l'art, etc., qui va permettre le lâcher-prise. Le détachement est encore une de ces méthodes qui va permettre de se défaire de certaines choses auxquelles on est attaché. L'une des choses auxquelles on est beaucoup attaché dans notre monde aujourd'hui, dans la conscience d'aujourd'hui, c'est à des loyautés. On est dans des loyautés par rapport à des croyances, par rapport à des idées, par rapport à des blessures, par rapport à des mensonges, par rapport à des secrets de famille. Et moi, j'ai envie, enfin, franchement, je le dis en toute sincérité, en tant que thérapeute, hein, j'entends, que ça ne fait jamais du bien de rester dans une loyauté quand elle ne nous convient pas. Et que quand on est thérapeute et qu'on voit quelqu'un qui est bloqué dans quelque chose qui ne lui convient pas, notre rôle de thérapeute, c'est de lui donner des moyens d'avoir envie, puis ensuite d'oser transgresser la loi, transgresser sa loi familiale qui est basée sur un malentendu, sur une faiblesse, sur une manipulation, pour qu'il se donne le droit de croire en ce qu'il croit pour être heureux sur cette terre, ce qui est le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire aux générations futures. Autre ressource que l'on peut avoir, autre technique, c'est la libération des ressentiments. Je vous ai dit libération des ressentiments par gentillesse, par compassion, mais il y a un mot qui convient mieux, c'est pardonner. Voilà. Et sauf que ce mot, il est un peu compliqué, il mérite à lui tout seul une conférence. On pourra en faire une un jour si ça vous dit. Mais on va dire que libérer les ressentiments, ça serait quand même fantastique, parce que s'il y a bien un putain de virus qui existe en ce moment, c'est le virus du ressentiment. La haine, la tristesse, la colère, la frustration, la déception, tout ça, ce sont des ressentiments, et ça pourrit notre monde aujourd'hui, et c'est en train de nous provoquer au plus profond de notre conscience, pas inconscience, conscience, pour qu'on on réalise qu'en fait, on vit plus de temps dans le ressentiment que dans le juste sentiment. Autre technique, la pacification. On est dans une époque de conflit. Le conflit est partout. Je ne vais pas en faire la liste, ça serait trop long. C'est regarder les infos, vous me direz tout de suite, ah oui, ah oui, ah oui, et vous aurez des conflits. Regardez les médias, regardez YouTube, etc. Tout est témoignage de conflits. Tout est fait pour qu'on se mette en conflit, même entre notre ego et notre soi, même entre ce que notre âme, notre intuition semblerait dire et notre ego est obligé de dire. Ça, c'est le conflit. Et donc, pacifier un conflit, c'est pouvoir reconnaître ce qui ne va pas, accueillir les intervenants et essayer de les mettre en accord par la médiation, la compréhension, l'entente et l'écoute qui est nécessaire. Autre et dernière technique de libération comportementale que la thérapie archétypale propose, c'est le passage à l'action. Le passage à l'action, on vous le propose à chaque méditation quand vous la faites, c'est vraiment de méditer actif. On n'est pas dans les méditations contemplatives. Vous n'êtes pas dans une méditation où je vais vous aider à aller grimper dans les plans de conscience subtils et aller vous évader de ce monde. On va toujours sentir son corps, sentir la terre, sentir son énergie, retrouver le je que nous sommes pour pouvoir de là accueillir d'autres plans de conscience. Donc on est vraiment dans cette dans cette action. Quand on va être en soins et qu'on va voir des gens qui se plaignent, qui sont victimes, qui entretiennent la victimisation, eh bien, on va leur dire, OK, vous êtes victime, on va faire le temps qu'il faut pour que ça soit bien entendu. Mais après, est-ce que vous voulez rester victime ou et condamner tous les bourreaux que vous rencontrez? Et ou est-ce que vous pourriez imaginer que ça serait bien que vous travailliez votre victimisation et que vous vous dévictimisiez pour que les bourreaux n'aient plus de raison d'exister. Ça, c'est de la thérapie archétypale. Donc, c'est une thérapie que l'on peut comprendre et qu'on peut appliquer à soi-même. Donc, vous pouvez l'étudier, vous pouvez l'entendre, vous pouvez travailler avec, juste pour vous, pour bien vous soigner, pour vous apprendre à vous aimer, pour apprendre à vous brancher sur les 22 ressources, juste perso. Et personne ne vous en voudra si c'est juste une démarche égotique et personnelle, parce que l'égocentrisme est nécessaire pour arriver à aimer son ego, pour qu'ensuite on ait envie de le partager. Je vous cite une phrase bien connue, « Aime ton prochain comme toi-même », ça sous-entend de manière très concrète, « Apprends à t'aimer avant d'aimer les autres parce que tu ne sais pas le faire ». Et quand tu as appris à aimer les autres, quand tu as appris à t'aimer, alors aime les autres. Et avec plus de tolérance encore, apprends à aimer les autres parce que toi, tu n'arrives pas à t'aimer toi-même. Et quand tu sens que tu aimes les autres, alors sers-toi de l'amour que tu as donné aux autres pour t'aimer toi-même. Ça, c'est de la thérapie archétypale. Donc, appliquer cette thérapie à soi-même, l'appliquer à sa famille. Et quand je dis la famille, j'entends la dimension archétypale, une famille vaste, c'est-à-dire que vous allez faire du bien à vos enfants immédiatement. Vous allez faire du bien aux enfants de vos enfants. C'est des choses concrètes et palpables. Mais vous allez faire aussi du bien à ceux qui ne sont plus là, à ceux qui sont sur d'autres plans et qui, dans mon regard et mon ressenti, et je ne suis bien évidemment pas le seul, sont malheureux, ne sont pas là où ils devraient être, ne sont pas à profiter d'une autre vie, d'un autre plan ailleurs. Probablement, ils peuvent être en partie souvent bloqués par les histoires qu'ils ont laissées, les blessures qu'ils ont provoquées et la culpabilité qui leur empêche de s'autoriser à accéder à la lumière. Seul vous, et non pas Dieu, même si c'est pareil, leur permettra d'accéder au pardon, à la lumière, si vous leur pardonnez et si vous les mettez en lumière et si vous mettez en lumière leurs actions, même sombres, en estimant que c'est grâce à ces actions sombres que vous avez compris la différence entre le sombre et le lumineux et que vous avez même choisi de ne plus avoir envie de faire des actions sombres et que vous avez appris, après avoir choisi, à faire des actions lumineuses. Et là, vous leur rendrez grâce à ceux qui vous ont fait du mal en disant que c'est grâce à eux que vous en êtes arrivé là où vous en êtes. Alors, la famille, soi-même, elle permet de voir les choses autrement, d'avoir un regard global sur la personne, la famille, le monde. On peut se soigner différemment quand on comprend tous ces plans-là. On peut soigner son histoire et on peut en soigner la maladie. Aussi, la thérapie archétypale peut s'appliquer à d'autres outils thérapeutiques pour soigner les autres. Vous êtes thérapeute, vous êtes soignant, vous êtes médecin, vous êtes psychiatre, vous êtes kiné, vous êtes ostéo. Si vous vous intéressez à la dimension de la thérapie archétypale, restez ce que vous êtes, changez d'état d'esprit, c'est juste. C'est simplement ça qu'il est possible de faire avec la thérapie archétypale. Vous avez des outils qui vous sont partagés, vous avez la classification de ces archétypes qui est un vrai concept analytique et vous avez la possibilité d'adapter ce concept qui donne un état d'esprit à vos outils sans les renier, sans en donner la préférence à l'un ou à l'autre et sans estimer que vous devez faire de la thérapie archétypale à tout prix. Non, restez ce que vous êtes, mais appliquez la thérapie archétypale dans les outils que vous avez. Enfin, on peut appliquer la thérapie archétypale à une dimension plus collective, c'est-à-dire à des groupes sociétaux. On peut appliquer la thérapie archétypale à des gens qui souffrent, à des corps de souffrance collectifs. L'un des exemples, c'est le corps de souffrance de la femme. Je suis en train d'écrire dessus avec un grand plaisir. Et en fait, je me rends compte que toutes les femmes, quelles qu'elles soient, libérées ou pas, ayant vécu à travers le temps une identité féminine et porteuse d'un héritage de ses expériences féminines qui lui laisse un petit goût amer dans la vie parce qu'elle a eu beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances, beaucoup d'injustices et qu'elle peut être puissante, elle peut être femme de pouvoir, mais elle a le droit avant tout d'être heureuse. Et être heureuse, c'est libre du corps de souffrance. Un autre exemple, le racisme, la discrimination. Regardez la télé si ça vous chante, je ne vous le conseille pas, mais c'est exactement ce qui se passe. La méchanceté, la bêtise, l'ignorance qui se transforme en haine gratuite, ça veut dire qu'il y a une souffrance chronique qui est là, qui est installée dans l'inconscient collectif, et que du coup, qui que ce soit qui est porteur d'une identité qui a été discriminée est porteur de l'opportunité de se défaire de ce corps de souffrance pour tout le monde. C'est une thérapie d'actualité, la thérapie archétypale, parce que le monde change, parce que la conscience évolue et les croyances se remplacent. Ça fait 30 ans que je travaille sur la thérapie archétypale, 32 ans exactement, que j'ai vu émerger un espèce de ressenti complètement flou de ce que pouvait être la thérapie archétypale. Et en 30 ans, les choses ont pris forme. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous l'entendez à mon ton, je suis déterminé à vraiment exprimer que c'est une thérapie bien adaptée au changement de conscience, bien adaptée avec respect et avec compassion et avec intelligence à toutes les thérapies qui existent en y mettant une double dimension en plus. Ce qui ne veut pas dire que les autres thérapies n'ont pas ça, mais en tout cas, la thérapie archétypale a une double dimension, c'est l'éveil de l'intérêt collectif et de la responsabilité planétaire. Et donc, on est en plein dans ce qui se passe. La période que nous vivons, très spéciale, cette fin d'année, tant mieux, elle a été vraiment remarquable, étonnante, extraordinaire, on va dire. On ne va pas mettre de mots négatifs, mais extraordinaire. Eh bien, cette période se termine, on ouvre une nouvelle période le mois prochain, en 2021. On est en temps, ce passage tumultueux de ce passage d'année. Et moi, je pense sincèrement que l'année qui arrive est une année qui doit nous permettre de faire des prises de conscience, de rentrer dans le changement de conscience, d'accepter la rupture de certaines valeurs, certaines croyances, et que c'est un cadeau et non pas une perte. C'est magnifiquement heureux et de toute façon inéluctable. Et donc l'année 2021 pourrait être propice pour chacun d'entre nous à une démarche personnelle, puisque si on doit être encore un peu confiné ou si on doit être contraint d'une manière ou d'une autre, alors il ne faut pas qu'on tombe dans l'ombre de ces contraintes et de cette privation d'identité, j'entends d'identité spirituelle. Si on est dans un changement de conscience, ça veut dire que l'univers nous reconnaît comme des êtres qui peuvent s'éveiller. Or, si tout est fait pour qu'on ne s'éveille pas du tout et qu'on s'endorme, alors on est dans un non-sens, c'est-à-dire un non-sens existentiel, c'est-à-dire c'est énorme. Hein. Donc, pour ne pas tomber dans ce non-sens et pour accepter ce qui se passe si on ne peut pas faire autrement, ben, moi, j'ai une chose à vous proposer, c'est de faire un travail sur vous, c'est-à-dire trouver un truc, une chose à faire, trouver les moyens d'éveiller votre conscience, de changer d'énergie, de comprendre autrement, de vous éveiller. Il y a plein de méthodes, il y a plein d'approches. La thérapie archétypale en est une proposition et avec notre équipe dans la thérapie archétypale, l'association qui me porte et que je remercie chaleureusement pour me porter parce que sinon je sais très bien que je n'existerai déjà plus. Gratitude. Avec cette équipe, nous avons mis en place pour l'année qui arrive, nous avons mis un enseignement accessible, c'est-à-dire que deux modes d'enseignement, une formation que nous démarrons coûte que coûte en janvier en présentiel à Clichy. Nous avons le droit de la faire. Donc, nous la commençons, nous mettons l'énergie et après, on verra comment ça se passe, mais on ne vous lâchera pas si vous la faites. Et puis, une deuxième formation en visioconférence qui, sur un cycle long, hein, donc c'est sur l'année, et qui permet de comprendre la thérapie archétypale, le travail énergétique qui va avec, la classification des archétypes, la dynamique archétypale, tout ça en visioconférence et réparti tranquillement sur l'année, et comme ça accessible à tous ceux qui sont à l'étranger et qui n'ont pas pu se rendre. Et qui ne pourront pas de toute façon se rendre en janvier parce que les mesures ne seront pas levées et qui sont en Algérie, qui sont à la Martinique, qui sont à la Réunion, qui sont au Canada, qui sont en Italie. Et donc, il n'y a aucune raison que la spiritualité ne dépasse pas les frontières et que l'on ne puisse pas trouver un mode de fonctionnement. Je peux vous dire en toute sincérité que moi, les outils comme ça, je ne croyais pas les aimer. Je ne pensais pas qu'un jour je serais dedans. Et j'ai découvert récemment, en faisant un atelier, que ces outils étaient magnifiques et que la vibration spirituelle d'une idée, d'une pensée, d'un mécanisme se passait à travers les ondes de l'ordinateur sans aucun problème. Il suffisait simplement de s'en servir et de laisser l'énergie passer tranquillement à travers les ondes et les écrans. Donc pour moi, c'est cadeau, c'est révélation, c'est comme si j'étais tout d'un coup de cette planète, que je suis bien à ma place dans ce monde avec les outils qui correspondent, et que donc du coup, cette formation en visio me paraît totalement juste. Enfin, pour compléter cette formation, j'ai proposé que à partir de janvier, de 23 janvier, nous commencions, pour ceux qui seraient intéressés pour aller dans la profondeur des problématiques ressources à notre disposition, donc des 22 archétypes qui sont des trésors à trouver, à identifier et à incarner, et bien à partir de janvier le 23, je lance le premier archétype, la liberté, et c'est un atelier sur deux Zooms dans la journée, c'est un samedi, et qui permet d'avoir un approfondissement de cette ressource humaine. Et donc, pendant le temps qu'il faudra, donc ça mettra sans doute 2 ans, nous ferons un atelier par mois sur chacun des 22 archétypes, en visio, très accessible à tout le monde et facile à suivre. Voilà, sur le site, vous avez sur le site de la thérapie archétypale, vous avez des conférences en ligne si vous voulez en savoir un peu plus. Vous avez un tirage en ligne du tarot des archétypes qui permet de voir quelles ressources vous travaillez, ou quelle ressource fait partie de votre histoire. Donc, ça peut être intéressant d'aller faire un tour si vous ne l'avez déjà pas fait, si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous avez des références d'ouvrages qui sont sortis sur la thérapie archétypale et vous avez les détails de la formation. Voilà, je ne prendrai pas plus de temps pour vous ce soir. Je vous souhaite vraiment pour cette fin d'année Noël, cadeau de Noël. D'abord, c'est la fête de la famille et en même temps, le thérapeute que je suis sait que c'est le mois le plus déprimant au niveau du sentiment d'abandon parce que ça réveille plein de choses dans l'inconscient et notamment l'une des choses les plus subtiles et spirituelles qui existent, c'est de ne pas trouver sa place dans ce monde, dans cette famille planétaire. Donc, vous pouvez aller réveillonner avec vos parents, votre famille, vous pouvez faire la fête un petit temps et puis j'espère vous faire plaisir. Moi, mon conseil de thérapie archétypale, c'est donner de l'amour un maximum, que votre sourire, que vos mots, que vos cadeaux, que vos attentions soient conscientes cette année beaucoup plus que d'habitude. N'ayez pas peur de contaminer, mais donnez l'énergie de l'amour, de la compassion, de la fraternité. Et à ce moment-là, vous allez voir que vous ne pouvez pas être envahi par des microbes et des virus. Et puis, si ça devait arriver, eh bien, faites confiance à la vie. Je vous souhaite donc une belle fête de fin d'année en famille, mais surtout de vous servir de votre famille pour expérimenter l'amour, le don, le recevoir, le donner dans des petits détails de la vie de tous les jours. Et puis, je pense que je pourrais aussi, si ça vous dit, vous proposer une conférence en janvier, le 28 janvier, sur la nouvelle conscience. Je pense que d'ici là, il va se passer des choses, qu'on rentrera dans l'énergie 2021, ça sera un peu plus clair sur les perspectives. Et donc, si tout le monde est d'accord, enfin, en tout cas, si c'est OK au point de vue de l'organisation et tout ça, eh ben, je vous proposerai cette conférence le 28 janvier sur la nouvelle conscience. Merci d'avoir été là si nombreux, de m'avoir écouté, de m'avoir donné un temps de partage de paroles, d'explications. C'est de l'amour pour moi, je le prends, je le reçois, je m'en nourris et j'en suis riche et gratitude à tous et à toutes.